Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Chers internautes, je vous propose aujourd'hui de feuilleter avec moi quelques lettres. Des lettres d'un jeune maître d'école rassemblées dans un ouvrage intitulé « École, droit de réponse » publié chez Hachette. Chaque année, l'Institut de France, sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques, décerne un prix Louis Cros à un ou plusieurs lauréats. Cette année, Sylvain Grandserre, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des heureux gagnants 2007. Je précise qu'il y en a un second, ou plutôt une seconde, puisque c'est Ludivine Thiopoun qui a été également lauréate pour son livre « L'État démocratique et ses dilemmes », le cas des universités, publié aux éditions Hermann. Pour la première fois, nous vivons grâce à vous, qui êtes instituteur, la vie d'une école en direct, avec toutes les péripéties qu'elle engendre, à savoir que vous recevez des lettres que vous inventez, je précise, de parents d'élèves, de professeurs, d'institutionnels, académiques, mais aussi de collègues, de conseillers pédagogiques, et même de votre famille, pour des conseils, des remarques, des jugements déguisés quelquefois. Et vous y répondiez avec beaucoup de modération et de tempérance. Vous avez envie de nous expliquer un peu comment se passe la vie sur le terrain, la vie avec vos petits écoliers. Comment avez-vous procédé? Comment avez-vous rassemblé toutes ces lettres?
Alors en fait, je me suis appuyé sur les questions qui revenaient régulièrement dans les débats éducatifs. On parle beaucoup d'école. Il y a des attentes importantes autour du système scolaire français et forcément, ça génère tout un tas de débats avec des questions récurrentes aussi. C'est-à-dire que finalement, on parle toujours un petit peu de la même chose. Donc, j'ai souhaité au travers de ce livre apporter ma pierre à l'édifice avec un regard qui est effectivement celui de quelqu'un qui est en classe au quotidien avec ses élèves dans la campagne normande. Donc, c'était cela mon ambition, s'il y en a une, parce que c'est toujours très prétentieux de faire un livre sur l'éducation. Mon ambition, c'était d'apporter une réponse entre guillemets de terrain. Mais pas seulement, parce qu'il ne suffisait pas d'être sur le terrain pour dire la vérité. Donc j'ai aussi essayé de m'appuyer sur mes connaissances en histoire, en sociologie, en psychologie, et tout un tas de ressources qui permettaient d'étayer mes impressions.
Comment vous est venue l'idée des lettres ?
Alors, en vérité, l'idée des lettres, elle est née de ma participation à pas mal de débats, de forums, de discussions, d'échanges publics ou privés, et puis de l'incitation très forte de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, qui était à cette époque le directeur de l'UFM de Lyon. Voilà, il faisait partie des gens qui lisaient mes contributions. Et puis, c'est cette personne, Philippe Mérieux, qui m'a incité à passer un travail plus important, plus structuré, avec plus d'éléments de réponse. Donc, les lettres aussi, parce que finalement, c'était rétablir la communication, l'échange dans des débats souvent passionnés, ou parfois d'ailleurs des débats qui vont parfois trop loin dans l'invective, dans le jugement, parce que en parlant de nos enfants, on parle de la chair de notre chair, avec une part d'irrationalité qui surprend parfois les observateurs. Il y a quand même très peu de débats qui tournent comme ça à des affrontements aussi violents que les débats éducatifs.
Et alors, comment est venue l'idée de ces lettres ?
Alors, l'idée des lettres, en tout cas des thèmes.
Des thèmes.
Alors, les thèmes, eux, correspondaient finalement au sujet que j'avais eu l'occasion d'aborder depuis une bonne dizaine d'années. C'est toujours des sujets sur l'illettrisme, l'utilité de la maternelle, la question et la remise en cause du collège unique, la place des parents, la place des devoirs, la formation des enseignants, les prétendus privilèges des enseignants. Donc, vous voyez, finalement, c'était assez simple de recueillir 26 thèmes que j'ai pu ensuite classer dans l'ordre alphabétique pour les faire coïncider avec les 26 lettres de l'alphabet. Donc finalement, le souci principal n'a pas été de trouver 26 thèmes de discussion, mais plutôt de s'arrêter à 26 seulement, l'alphabet français ne permettant pas d'aller au-delà.
La forme est intéressante parce qu'on peut, démarrer n'importe quand dans le livre.
Voilà, et c'est le choix visiblement de pas mal de lecteurs d'entrer dans le livre à la lettre qui les a amenés à ce travail. Donc effectivement, certains sont très soucieux de ce qui est fait en maternelle, d'autres aimeraient en savoir un petit peu plus sur les méthodes de lecture, d'autres lecteurs encore aimeraient surtout savoir où on en est des théories de l'apprentissage. Donc voilà, chacun fait son entrée pour butiner, pour aller prendre ce dont il a besoin, et puis après tout, ensuite être entraîné vers la lecture d'autres lettres où je pose des questions que le lecteur, lui, ne se posait peut-être pas.
Alors, à travers toutes ces lettres, on sent un besoin de parler, d'échanger sur des expériences que vous vivez. On sent même parfois de la part de certains collègues un appel au secours, pourquoi pas, une aide. Comment vous positionnez-vous face à toutes ces attentes, finalement ? puisque vous remontez toutes ces attentes. Quelle est votre position, vous, par rapport à ça ?
Effectivement, je crois que actuellement, ce que l'on a mal mesuré dans la critique qui est faite à l'école française, on a mal mesuré à quel point ce n'est pas l'école qui a régressé, mais les exigences qui ont littéralement explosé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi exigeant envers le système scolaire. D'abord, on attend tout de lui, absolument tout, aussi bien l'éducation à la santé que l'éducation au goût, et puis l'éducation à l'image, la lutte contre l'obésité, etc., etc. On attend absolument tout du système scolaire. La politesse, et puis forcément les apprentissages logiques et scolaires que représentent le français, les maths, l'histoire, la géographie, les sciences, la technologie, l'anglais, l'informatique, le sport, les arts plastiques, la musique. Vous voyez, c'est long, parce que c'est copieux. Effectivement, on sent vraiment une montée des angoisses. Nous avons, nous, Français, sommes les plus gros consommateurs de tranquillisants, d'anxiolytiques, de somnifères. Donc on sent bien que les gens sont extrêmement crispés. On le ressent aussi chez les enfants qui sont les plus stressés de l'OCDE, d'après une enquête récente. Des angoisses qui, à mon avis, sont liées aussi à la situation sociale du pays. Voilà. Autrefois, on pouvait échouer à l'école et puis réussir sa vie professionnelle, sa vie sociale et familiale. Aujourd'hui, on est presque dans une situation inverse, où quand bien même on réussirait sa scolarité avec l'obtention de diplômes à Bac plus 3, Bac plus 4, eh bien rien ne garantit qu'il y aura un transfert dans le monde du travail. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des maîtrises et puis qui sont livreurs de pizza le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fortement ressenti. Des attentes liées donc à la situation sociale et puis peut-être aussi au fait qu'on est une des premières générations qui peut choisir d'avoir des enfants. C'est-à-dire pendant longtemps, les enfants, entre guillemets, nous arrivaient du ciel, si j'ose dire, et puis on les avait parce qu'on les avait. Et puis la question scolaire est un petit peu annexe parce que rapidement, ces enfants-là, il fallait les mettre au travail, il fallait qu'ils participent à la rentrée d'argent dans le foyer. Alors qu'aujourd'hui, les enfants sont porteurs d'un projet parental, avec une projection, avec l'envie que l'enfant réussisse là où on a échoué. Donc ça peut peut-être aussi expliquer ses angoisses, ses attentes, ses nouvelles exigences. Et je crois que la seule façon d'y répondre, c'est le dialogue, la discussion, l'échange. D'où aussi cette forme épistolaire choisie pour le livre.
Dans une des lettres qui s'intitule « Enseigner, c'est bien, faire apprendre, c'est mieux », qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
On confond souvent les deux. C'est-à-dire que très souvent, on croit qu'il suffit d'enseigner, il suffit que l'adulte enseigne pour que l'enfant apprenne. Et souvent, c'est une des grandes désillusions des jeunes professeurs, c'est de s'apercevoir que malgré leur préparation, leur progression, le recensement des objectifs, des sous-objectifs, la réflexion sur le mode d'évaluation, eh bien, tout ça a beau être théorisé et puis préparé à la maison ou à l'école, eh bien, rien ne garantit jamais que l'élève, en bout de course, apprendra. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est encore et toujours l'élève qui doit apprendre. Nul ne peut apprendre à la place de l'élève, on le dit souvent comme ça, puis on ne se rend pas compte des conséquences de cette formule. Nul ne peut apprendre à la place de l'élève. C'est-à-dire que finalement, l'enseignant est une espèce de metteur en scène, un créateur de situations pédagogiques qui font que l'élève va enfin se poser des questions auxquelles on avait la prétention d'apporter des réponses. Parce que vous savez que le paradoxe de l'école, c'est d'amener énormément de connaissances à des élèves qui n'en demandaient pas tant, qui ne voient pas l'intérêt. Qui plus est, les professeurs sont eux-mêmes d'anciens bons élèves qui ont trouvé des sources d'inspiration dans l'enceinte scolaire, qui se sont passionnés pour l'histoire, pour la géographie, pour les sciences. Mais les petits élèves n'ont pas forcément cette passion. Il y a tout un tas d'enfants pour lesquels l'école ne va pas de soi, pour lesquels les disciplines scolaires n'ont pas grand intérêt. Donc c'est un enjeu supplémentaire parce que nous sommes aussi à une époque où toute la société s'organise autour de la satisfaction immédiate des désirs, des plaisirs. On veut tout, tout de suite, maintenant. On veut son canapé en 48 heures chrono. On veut pouvoir joindre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, à coup de mail, de texto, de SMS. Donc on voit que toute la société est organisée sur cette immédiateté de la satisfaction. Et l'école, elle, n'est pas sur ce tempo-là, si j'ose dire, n'est pas sur ce rythme-là. L'école, c'est encore et toujours un lieu d'attente, de frustration, un lieu où on est capable de prendre son temps, de recommencer, d'améliorer. Donc on sent actuellement, peut-être aussi ce qui pourrait expliquer donc, le malaise enseignant, on sent actuellement un écart entre la société telle qu'elle s'organise autour du caprice, disons le mot, et puis la mission fondamentale de l'école qui est justement de sortir du caprice pour grandir, pour que les petits humains deviennent des citoyens cultivés, éclairés. Voilà, donc il y a peut-être aussi une explication de ce côté-là.
Justement, on en vient à la lutte contre l'échec scolaire. Ce thème, est-ce qu'il vous apparaît fondamental ?
D'abord, c'est un thème qui est relativement nouveau, parce que le paradoxe est le suivant, c'est que quand la moitié de la population scolaire quittait le système après l'école primaire, eh bien, le terme lui-même n'existait pas. On ne parlait pas d'échec scolaire dans les années 50, dans les années 60. On n'en parlait pas parce que finalement, il n'y avait pas d'échec dans la vie professionnelle. Et bizarrement, moins il y a d'élèves qui sont en échec, plus on en parle. Finalement, c'est assez logique, parce que ça veut dire aussi qu'on supporte de moins en moins cet échec. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Éducation nationale est quand même un gros consommateur de budget, de moyens, de personnel. Il y a quand même plus de 800 000 professeurs pour accueillir près de 12 millions de jeunes chaque jour, que ce soit en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée, à l'université ou dans la formation professionnelle. Donc effectivement, on sent la nécessité d'organiser des apprentissages, de se justifier sur ces questions-là.
D'ailleurs, vous dites, pour un parent, l'échec de son enfant est d'abord le sien.
C'est à l'aune des résultats scolaires qu'on mesure la bonne parentalité. Malheureusement, très souvent, c'est comme ça qu'on arrive à savoir si un enfant est bien élevé. Alors, ce serait juste si tout le monde partait à égalité de chance. Mais vous savez très bien que tous les enfants de France ne sont pas élevés dans les mêmes conditions affectives, matérielles, culturelles. Nous avons près de 2 millions de jeunes en France qui sont sous le seuil de pauvreté, d'après les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Donc effectivement, ce sont des conditions difficiles. Et pour les parents, c'est un retour très violent pour eux. Je ne sais pas si on imagine à quel point c'est dur d'être parent d'élèves en échec. Ça veut dire qu'on l'est aussi quelque part en tant que parent. Donc à nous aussi, enseignants, d'être capables de trouver les mots pour non pas dramatiser comme on le fait souvent, mais au contraire pour apaiser et puis surtout donner des pistes, trouver des solutions. La culpabilisation de l'échec n'est pas un élément moteur, ne permet pas de rebondir, de se reprendre, surtout quand on est un petit enfant de 8 ans. Donc notre rôle est aussi psychologique, si j'ose dire, avec de la bienveillance, de la gentillesse, de l'attention, avec à la fois de la compréhension et de l'exigence. Vous savez, le risque inverse, ce serait l'empathie absolue. C'est-à-dire, on contemplerait la misère comme ça, en étant des spectateurs inactifs. Non, nous sommes des acteurs de l'éducation. Et notre mission, c'est aussi de sortir certaines familles et certains élèves de l'ornière sociale dans laquelle ils se trouvent à ce moment-là.
Et là vient la question du choix de l'éducation en fonction du tempérament, de la personne. Est-ce que vous croyez qu'on puisse développer une éducation à la carte en fonction de la personne ou de l'enfant, tout simplement ?
C'est une exigence nouvelle. On voit bien monter cette attente, c'est-à-dire on irait tout doucement vers une espèce de préceptorat successif. Le professeur s'occuperait un par un des élèves dans une éducation individualisée à l'extrême. Il faut à nouveau raison garder. Et savoir qu'en éducation, la vérité est rarement dans le manichéisme, mais plutôt dans la recherche des équilibres. Donc, à nous d'organiser la classe de manière à ce qu'on soit à la fois sur des temps appropriés à chaque élève, où vraiment on travaille en fonction de ses besoins, en fonction de son niveau, en fonction de ses difficultés. Et puis en même temps, il faut garder foi en la dynamique de groupe, en la capacité d'une classe à se motiver, à s'unir autour d'un projet fédérateur, autour d'une réflexion sur la langue, sur une recherche mathématique. Et je pense qu'un bon enseignant est celui qui est capable, au jour le jour, et presque au bout de, je dirais même au bout de chaque heure et de chaque séance, capable de faire son propre bilan, d'être en auto-observation, et de se dire, est-ce que j'ai bien respecté les équilibres entre temps d'écoute et temps d'expression, entre temps de travail individualisé et temps de travail collectif, entre temps de finalisation des apprentissages et puis temps de formalisation. Formalisation, ce serait travailler, par exemple, la conjugaison ou la grammaire, techniquement. Et puis finalisation, ce serait de trouver du sens à tout ça, par la correspondance, par l'écriture d'un roman, par la publication d'un journal scolaire. Vous voyez, donc c'est tout un tas de repères qu'il faut avoir en tête, donc toujours à la recherche de l'équilibre, parce qu'un funambule n'avance pas droit. Un funambule, c'est quelqu'un qui passe son temps à rectifier pour ne pas se casser la figure. Et l'enseignant dans sa classe est dans cette posture-là. Il faut qu'il soit ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, donc ni trop dans le travail collectif où on servirait la même chose à tout le monde au même moment et au même rythme, ni non plus dans une succession de cours particuliers comme ça, où chacun viendrait recevoir de l'école sa ration personnelle. Le but de l'école n'est pas seulement de faire construire des savoirs et des compétences. Le but de l'école, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté, de la vie en commun, apprendre à gérer un projet, une recherche documentaire, une expérience scientifique. Voilà. On n'est pas seulement là pour délivrer du savoir, on est aussi là pour partager des moments de vie de classe. N'oublions pas qu'il y a des enfants qui nous sont confiés dès 7 heures du matin, au travers des garderies, et puis ces enfants viennent en classe, et puis on les garde le midi sur le temps du déjeuner, et puis on les reprend l'après-midi en cours, et puis ces enfants ne quittent pas la structure scolaire le soir où ils sont encore en garderie. Donc il faut avoir cette vision-là, il faut imaginer ce que c'est effectivement pour un enfant de 7-8 ans que ce rapport à la structure scolaire.
Vous recevez des stagiaires, quelquefois, même régulièrement. Comment ça se passe lorsqu'ils arrivent dans votre école et qu'ils regardent votre façon de travailler? Est-ce qu'aujourd'hui, l'institution est à la mesure de l'ambition?
Les jeunes enseignants, d'ailleurs d'une manière générale, d'après une enquête du monde de l'éducation, les jeunes enseignants sont souvent très surpris de la charge de travail. On n'y fera rien, la réputation de l'éducation est là, les gens savent qu'il n'y a pas de mercredi travaillé avec les élèves et qu'il y a 4 mois de vacances. Alors c'est trompeur parce que ça attire forcément en se disant le métier d'enseignant laisse beaucoup de temps libre, notamment pour ses propres enfants. Hein. Au dernier concours de recrutement de professeurs des écoles, on a donc embauché pour le coup 86% de femmes. Pourquoi le corps de professeur des écoles se féminise-t-il à ce point? Peut-être toujours parce qu'on véhicule cette idée que voilà, enseignant, ça laisse du temps. Ben non, enseignant c'est complexe, de plus en plus complexe, parce que au-delà des matières dont nous parlions, hein, il y a aussi un travail en périphérie de la classe. Un enseignant aujourd'hui est quelqu'un qui a une deuxième casquette autour de l'organisation de sa classe. C'est quelqu'un qui rencontre la psychologue scolaire, le médecin scolaire, l'orthophoniste, les élus, les partenaires culturels, sociaux, le club sportif du coin. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est rédacteur de projets d'école, de projets individuels, de réussite éducative. Donc vous voyez, il y a tout un travail en périphérie de la classe que l'on n'imagine pas et que l'on sous-estime. Voilà la première surprise pour les jeunes enseignants. La deuxième surprise pour eux, très souvent, c'est l'incidence sur la vie privée. Parce que si les enseignants ont leurs vacances, il faut savoir que sur une année, nous faisons autant d'heures que n'importe quel salarié. C'est-à-dire que les semaines sont très chargées. Un enseignant travaille le matin, l'après-midi et puis le soir. Et il travaille souvent le mercredi et puis le week-end. Parce qu'il faut bien assumer ses tâches de recherche documentaire, de correction, d'élaboration de la classe, réfléchir à la classe.
Préparation des cours.
Je fais quoi demain? Qu'est-ce que je fais demain en sciences? Dans quelle progression? Avec quelle programmation? Et puis même si je décide demain en sciences de travailler sur la respiration, je commence par quoi? Si demain on devait travailler avec des enfants sur la respiration, on commence par quoi? On commence par leur poser des questions? On commence par leur donner un texte, par leur montrer un film, par leur donner des diapositives? Voilà, donc vous voyez, il y a toute une élaboration aussi conceptuelle. Et pour chaque cours, ce n'est pas seulement une fois dans la journée. Sinon, pour les enseignants que je reçois, les professeurs stagiaires ou les étudiants que je reçois, ils sont souvent un petit peu pris à contre-pied parce que j'ai un fonctionnement assez marginal, inspiré des pédagogies actives, des mouvements de pédagogie basés sur l'innovation, autour notamment de certaines méthodes empruntées à la pédagogie freinée. Donc les élèves dans ma classe connaissent la coopération, c'est-à-dire qu'on s'entraide. Quand on a fini, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. On gère de nombreux projets, des projets de correspondance, de défis maths, des défis en lecture. Ça peut être aussi des projets en technologie ou bien la gestion d'un jardin. Donc voilà des fonctionnements qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont loin d'être majoritaires, mais restent très minoritaires. Parce que vous savez que finalement, comme le dit Philippe Mérieux, en éducation, on est revenu de tout sans jamais y être allé. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression voilà, qu'on a un petit peu tout testé. C'est complètement faux. Si les enseignants se sont beaucoup adaptés, on ne peut pas dire que l'éducation et le système éducatif souffrent de trop de modernisme, de trop d'innovation. Ce serait mensonger de dire ça. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui poussent la porte de la classe et qui attestent d'un certain conservatisme de l'école. L'école, elle a ses rituels, et puis il en faut. Elle a ses habitudes, ses coutumes. Puis, contrairement donc, à ce qu'on pourrait penser, on est loin d'avoir fait le tour de la question. Ceci dit, pour être tout à fait honnête avec mes collègues, s'ils n'ont pas énormément innové, ils se sont énormément adaptés à l'enseignement de l'informatique, des langues, de la technologie, de la littérature de jeunesse, adaptés à l'accueil de nouveaux élèves. Depuis février 2005, on voit de plus en plus de classes accueillir un enfant en fauteuil roulant, un enfant souffrant de surdité ou étant aveugle. Voilà tout un tas de choses qu'il a fallu faire et que les collègues font, avec courage et parfois sans formation, hein, en se débrouillant avec leurs qualités personnelles et humaines. Ce qui veut dire aussi que c'est un métier qui, s'il n'est pas fatigant, parce qu'on n'est pas à quatre pattes non plus, on n'est pas allongé sous des voitures, on ne porte pas des caisses, on ne va pas non plus faire croire qu'on a un travail pénible physiquement. Mais par contre, c'est un métier qui est très exigeant nerveusement. Nerveusement. Une classe, ce sont 25-30 élèves avec une certaine tension, de l'attention aussi, qu'il faut capter, une capacité à mettre au travail des enfants, à les amener sur des terrains dont ils ne se préoccupaient pas, à les rendre curieux sur des questions d'histoire, de science, de conjugaison. Comment fait-on pour rendre un enfant de 8 ans curieux en conjugaison? Voilà une question qui peut se poser. Vous savez que le paradoxe, les enfants sont curieux, on le dit toujours, mais pas les élèves. Comment ça se fait qu'on se plaint toujours que les élèves, alors au moment même où on aimerait leur apporter des connaissances, on se plaint qu'ils ne soient pas très curieux? Bah, tout simplement parce qu'on a tendance donc à leur donner des réponses toutes faites. Hein. C'est à l'enfant d'aller vers le savoir, c'est à l'enfant de chercher, de tâtonner, de faire cette expérience de découverte, d'élaboration des connaissances, et on est là pour ça.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez reçu des handicapés, donc, notamment dans votre école. Quel est votre souvenir le plus indélicat?
Le plus difficile dans l'accueil d'enfants souffrant de handicap, c'est paradoxalement la souffrance psychologique. Bizarrement, je dirais qu'il y a une espèce de compassion naturelle à l'égard d'enfants en fauteuil roulant, ou aveugles, ou sourds, et puis il y a des dispositifs matériels qui permettent parfois de vraiment combler la difficulté. Le plus difficile, c'est l'enfant qui est en souffrance psychologique, parce que là, il fait vibrer des choses en nous, il remet en cause l'organisation de la classe, l'autorité du maître, peut très bien agresser un autre élève. Pour un élève qui n'entre plus dans le moule, c'est toute une classe qui est en observation, qui est spectatrice de ce désordre qui s'installe. Et puis un enfant qui est en souffrance fait souffrir beaucoup. Donc on se sent mal à l'aise vis-à-vis de lui, parce qu'à la fois on le regarde comme une victime, mais aussi comme un petit bourreau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe, et puis à nouveau qui demanderait une véritable formation spécialisée. On ne peut pas comme ça impunément accueillir des enfants qui, en même temps que de pédagogie, ont besoin de soins. Hein, il y a quand même des limites à la capacité pédagogique, c'est le soin. Il y a un moment où il y a des enfants qui ont besoin d'un soin spécifique, adapté, qui se fait avec des professionnels de santé. Donc voilà, moi, à titre personnel, l'expérience la plus délicate, ça a été celle-ci, puisque j'ai été nommé, dès ma sortie de formation, j'ai été nommé dans une classe d'intégration scolaire, où on m'a confié 12 élèves qui étaient reconnus comme handicapés. Alors des fois, on pourrait discuter de la validité du terme. Et en tout cas, j'étais dans une situation où, pour que ces élèves-là apprennent, je ne pouvais plus enseigner. J'étais dans une situation telle, d'un tel désordre, d'un tel bazar, de telles difficultés relationnelles, que ces enfants-là ne pouvaient pas entrer dans les apprentissages par le discours, par le cours. Et c'était à moi donc, de trouver des contours, des détournements pour les amener vers les apprentissages. Alors, c'est quoi un contournement? C'est par exemple d'aller visiter la caserne des pompiers et puis de réaliser un reportage photo pour les autres classes. C'est de trouver des astuces au travers faire étudier le français en écrivant des chansons. Je joue de la guitare. Vous voyez, donc, en tout cas, rien n'allait de soi et il fallait à chaque fois être inventif et trouver des dispositifs qui permettaient aux élèves, malgré tout, parce que c'était quand même l'objectif final, d'entrer dans les apprentissages et de progresser.
Monsieur Grand-Serre, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve dans 5 minutes.
Il est né en Grèce, mais il vit entre Athènes et Paris. Il a reçu en novembre 2007 le Grand Prix du roman décerné par l'Académie française et il est reçu dans le studio de Canal Académie par Elisabeth Antebi. Vassili Alexakis, le plus grec des écrivains français, dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Monsieur Grand-Serre, revenons donc à la question de l'accueil d'enfants malades ou psychologiquement sensibles, vulnérables. Comment vous réagissez? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu abandonné?
C'est un sentiment qui domine quand même la population enseignante. Hein. C'est quelque chose en tout cas qu'on entend souvent, c'est ce sentiment de « voilà, on me laisse me débrouiller, il faut que je m'en sorte tout seul ». Alors c'est à la fois vrai et faux. Alors vrai parce qu'il y a bien des situations dramatiques où effectivement c'est à l'enseignant et à lui seul parfois de trouver la bonne astuce, le bon dispositif. Et puis en même temps, je dirais que c'est aussi la noblesse de ce métier, d'être dans l'inventivité, d'être dans la trouvaille, l'astuce, le bricolage. Moi je suis un défenseur du bricolage pédagogique, je trouve que le bricolage n'est pas du tout péjoratif. S'il n'y avait pas de bricoleur, il n'y aurait pas beaucoup d'étagères qui tiendraient droit. Donc il faut assumer ce travail-là de création. Je pense qu'un enseignant est aussi un créateur de situations, comme on le disait. Voilà, donc il faut à la fois être exigeant envers le système, envers notre appareil de formation. Il faut absolument qu'il y ait de la formation continue, une bonne formation initiale, avec des bonnes animations pédagogiques qui répondent aux besoins des enseignants. Puis en même temps, il faut aussi que chaque enseignant sache qu'aucune formation au monde ne sera satisfaisante sur un métier aussi pratique que l'est celui d'enseignant. C'est quand même un métier extrêmement concret, où il faut être capable de gérer du matériel, des photocopies, des demandes d'élèves, des demandes de parents, être capable de gérer la location d'un car, des places de théâtre ou de cinéma. Donc vous voyez, il y a tout un tas de compétences qu'il faut posséder. Et ça, je crois qu'aucune formation n'y répondra jamais. Donc il faut aussi un petit peu en faire le deuil. Si on attend d'être bien formé pour commencer ce métier, on ne le démarrera jamais, je crois. Il y a aussi un moment... Je prends la métaphore du permis de conduire. Après tout, au bout d'un moment, on délivre bien un permis de conduire et pourtant les gens ne savent pas conduire, très honnêtement. D'ailleurs, la preuve, on leur met un A à l'arrière qui signifie qu'ils sont en apprentissage. Et ben, je crois que quand on est enseignant, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on dit aux jeunes collègues, aux jeunes professeurs des écoles, on leur dit ben, « allez-y ». Vous avez compris à peu près comment ça marche. Et puis, bah, faites vos armes. Allez sur les routes de la scolarité, sur les routes des apprentissages. Soyez prudents, n'allez pas trop vite. Ne vous lâchez pas des mains avant que les pieds touchent par terre, comme disait Freinet. Et puis voilà, il faut y aller. Donc, vous voyez, ma réponse est volontairement mesurée. C'est-à-dire qu'il faut être exigeant à la fois avec le système, mais aussi avec les gens.
Voilà, donc ça, c'est pour la période d'apprentissage. Il y a en amont la sélection. Est-ce que vous pensez qu'elle est adéquate en rapport avec les qualités requises ?
La nation a fait un gros effort parce que si on rencontre encore parfois des gens qui ont juste le bac, hein, qui sont devenus instituteurs depuis maintenant près de 20 ans, eh bien on recrute à bac plus 3 des professeurs des écoles. Donc la nation reconnaît d'égale qualité tous ses professeurs, que ce soit en maternelle ou dans le secondaire. Et donc il y a quand même eu un effort de fait. Alors le problème, si vous voulez, c'est que la formation actuelle n'est ni suffisamment théorique ni suffisamment pratique. Je m'explique. Elle n'est pas assez théorique. Alors ça va faire hurler les étudiants. Mais je trouve que nos jeunes professeurs des écoles, à l'issue de la formation, ne sont pas assez conscients de l'histoire de l'éducation, n'ont pas une connaissance suffisamment étendue sur la pédagogie, la psychologie, la sociologie, qui sont quand même des sciences essentielles qui sont en œuvre sur les questions éducatives. Et à côté de ça, la formation n'est pas non plus suffisamment pratique parce qu'il faudrait que chaque étudiant, chaque professeur des écoles stagiaires soit un peu plus dans une relation un petit peu comme on peut avoir dans l'artisanat, vous savez, cette idée comme ça de partenariat où on serait très proches les uns des autres, un peu comme dans le compagnonnage. Voilà, il faudrait que chaque étudiant ait une école de référence, un maître de référence, qui puisse facilement aller dans ses classes, facilement être au quotidien, fréquenter la difficulté précise des classes. Parce que un des problèmes de ce métier, c'est qu'il se démarre d'emblée. Vous ne pouvez pas faire classe, vous n'avez pas démarré à mi-temps. Donc du jour au lendemain, vous devez être capable d'enseigner tout, toutes les matières que je déclinais tout à l'heure, et à tous les niveaux. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est la même formation pour enseigner en toute petite section en maternelle avec des enfants de 2 ans, et puis pour enseigner et travailler avec des enfants de CM2 pour une année de préparation au collège. Donc vous imaginez la compétence qu'il faut avoir, étendue, large, et puis j'ajouterai aussi une compétence territoriale, géographique. Il faut être capable aussi bien de démarrer en ZEP avec des enfants non francophones, pourquoi pas, et puis d'être tout seul au fin fond de la campagne, où on est à la fois, et c'est mon cas, le maître d'école, mais aussi le secrétaire, le trésorier, le directeur, j'ai envie de dire l'assistant social, et puis aussi celui qui répond à toutes les demandes en étant l'unique interlocuteur institutionnel. Donc voilà un petit peu ce qui fait la complexité de ce métier, la diversité des tâches, avec des compétences techniques à chaque fois réclamées. Parce que les gens attendent de nous un travail de professionnel. Après tout, on voit bien que la population a bien conscience qu'on est représentant de l'État. On est représentant de la fonction publique, représentant de l'éducation nationale, et ça amène des exigences légitimes auxquelles on essaie de répondre, mais avec difficulté, c'est vrai.
Est-ce que vous démarrez vos formations en ZEP pour la plupart du temps ? Est-ce que les maîtres d'école démarrent en ZEP ?
Voilà, on va aller vers un paradoxe qui est celui aussi que connaissent les policiers, hein, c'est-à-dire qu'on va démarrer là où personne ne veut aller. Hein, comment ça se passe ? On démarre avec un certain barème. Le barème étant lui-même proportionnel à l'ancienneté, en gros, hein, et puis aussi à la note. Mais cette note est déterminée par l'ancienneté. Donc, en gros, on va démarrer sur les postes que personne n'a voulu. Donc, vous devinez bien où ça va se passer. Donc, c'est en ZEP, sur des classes parfois complexes, et puis des classes isolées, ou bien des cours multiples, voire des cours triples. Hein. On a des collègues qui, aujourd'hui, reçoivent 27 élèves de CE2, CM1, CM2, en même temps. Au collège, ça n'existe pas. Il n'y a pas au collège des classes de 6e, 5e, 4e. En école élémentaire, c'est assez fréquent d'avoir des cours doubles, des cours triples, et voire même plus. Et même quand il n'y a qu'un cours double, ce qui est mon cas, je travaille avec des enfants de CM1, CM2, eh bien, ce sont quand même des enfants qui ont 8, 9, 10 ou 11 ans, selon qu'ils aient déjà sauté une année ou au contraire qu'ils aient été maintenus au cours de leur scolarité. Donc voilà, donc on démarre de toute façon dans les pires conditions. Et quand je reçois des stagiaires, je leur dis très souvent, de toute façon, ce ne sera jamais aussi dur que la première année. Parce que la première année, vous ne choisissez pas votre niveau, vous ne choisissez pas l'école. Bien souvent, vous n'avez pas eu le temps de choisir le matériel, ni les dispositifs pédagogiques. Vous êtes obligé de vous couler dans le moule prévu par les autres collègues, qui n'est sûrement pas le vôtre. Parce que comme on fait la classe avec ce qu'on est, bah, très souvent, ça ne correspond pas à la façon dont procèdent les autres collègues. Donc c'est vrai que le démarrage, le début de carrière est souvent marqué par beaucoup de fatigue, de solitude, d'isolement, d'incompréhension, de pleurs, de travail tardif, nocturne. qui, je le disais tout à l'heure, est sous-estimé. Est sous-estimé. Voilà, on n'imagine pas tout ce que ça représente comme travail.
Est-ce que vous proposeriez éventuellement de changer cette façon de faire ?
En tout cas, sur la formation initiale, comme je le disais, je crois vraiment, vraiment qu'il faut des gens plus compétents en termes de connaissances théoriques. Et puis, donc, plus au fait de l'actualité des classes et des écoles. Après, je le disais, on va arriver à un moment à quelque chose d'incompressible qui est de le faire vraiment. Je veux dire, il y a bien un moment où pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. On ne peut pas éternellement répéter les gestes à vide sur un tabouret. Donc, il y a bien un moment où il faut se lancer, il faut y aller. Mais nous, quand on met des enfants dans l'eau, on leur donne une ceinture ou une frite, hein, enfin, on les aide. Donc, c'est peut-être là, c'est dans l'accompagnement sur le terrain des jeunes collègues. Effectivement, il faut être très vigilant. Il faut absolument que nos conseillers pédagogiques, nos inspecteurs aient du temps pour être au plus près de ces jeunes collègues qui, très souvent, se sentent quand même isolés, abandonnés, avec des sollicitations de toutes parts, auxquelles il est très difficile de répondre.
Est-ce que, de la part de votre hiérarchie, vous avez des lignes directrices sur le plan de la structure même de vos cours ou de quotas particuliers qu'on vous imposerait ?
Dans l'éducation nationale, on bénéficie généralement d'une assez grande liberté pédagogique. En gros, il y a des programmes à faire étudier, il y a un certain nombre de compétences à faire acquérir aux élèves, des compétences qui sont de l'ordre de notions, mais aussi des attitudes et puis des savoir-faire, hein, savoir mener une enquête, savoir rédiger un résumé. Ceci dit, on bénéficie à l'heure actuelle encore d'une assez grande liberté pédagogique, qui est à double sens, je vous le dis, sans langue de bois. La liberté pédagogique, ça permet d'innover, de tâtonner. Ça peut aussi parfois servir un petit peu de paravent en disant « je refuse de me remettre en cause, c'est ma liberté pédagogique d'agir ainsi ». Moi, plus que de liberté pédagogique, je parlerai d'autonomie pédagogique. Je pense qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a plusieurs outils dans sa caisse. Il est capable de sentir que dans telle situation, il faut plutôt procéder ainsi, à tel moment, il faut faire évoluer sa classe. Et puis plus encore que de liberté pédagogique, je parlerai de pédagogie de la liberté. Il faut qu'une école soit aussi le lieu des expérimentations, de la liberté de l'élève à s'exprimer, à chercher, à produire de l'écrit, à mener des recherches mathématiques, liberté aussi de circuler, de mener un projet à son terme, de s'inscrire dans le temps. On est dans une société où tout s'organise autour de l'assouvissement des plaisirs. Et je crois que le rôle de l'école, c'est aussi d'inscrire les enfants dans la durée. Voilà, nous, actuellement, par exemple, nous travaillons sur la préparation d'un grand concert. On va rassembler beaucoup de classes avec des adultes qui vont nous accompagner, des musiciens professionnels. Et pour réussir ce projet, les enfants s'aperçoivent que c'est long. Ça demande beaucoup de répétition, d'apprentissage. Voilà, on est sur un travail à longue échelle. C'est très important dans la société actuelle où tout est dans l'immédiateté. C'est très important que l'école tienne bon et inscrive les élèves dans de la durée. Par exemple, Philippe Merlieu lui propose que chaque école ait son potager. Pourquoi pas ? Voilà, se rappeler ce que sont les saisons, se rappeler quel est le rythme naturel des choses.
Il y a un passage dans le livre où vous dites « La société n'accepte plus l'échec scolaire, mais elle est souvent peu curieuse d'en connaître les raisons. » En quoi l'enseignement et l'éducation est devenu un sujet primordial de notre temps ?
L'éducation comme sujet primordial, je dirais là aussi oui et non. En termes d'exposition médiatique, pas tant que ça. Il y a une enquête récente qui atteste que sur les 15 principaux sujets traités par les médias, l'éducation n'est qu'en 14e position. C'est quand même plus facile d'avoir le cours de la bourse au jour le jour que de savoir où on en est des méthodes d'apprentissage en sciences ou en lecture.
On ne peut pas vraiment quantifier, en fait.
Voilà. Donc, c'est vrai que les questions scolaires sont parfois complètement en retrait. Elles disparaissent, puis d'un seul coup, elles font irruption dans l'actualité éducative. Alors, souvent, en plus, sur des questions de violence, des questions alarmistes sur l'illettrisme ou bien les classements internationaux. Vous remarquerez que quand on parle d'éducation, c'est toujours sur un ton dramatique, apocalyptique, alors qu'il y a des tas de choses qui fonctionnent et dont on parle très peu. Je pense par exemple à une école de Mont-Saint-Barœul, dans le Nord, près de Lille. Voilà une équipe éducative qui a repris en main une école qui périclitait. Et cette école, au bout de 5 ans, a complètement remis les scores de ses élèves à flot en réintégrant la moyenne départementale. On n'en parle jamais. Bon, ça a quand même fait l'objet d'un très bon livre, mais peu de sollicitations médiatiques. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu sous l'angle de la crainte, de la peur, de l'angoisse qu'on traite les questions scolaires, trop souvent.
Dans une lettre, indirectement, on vous traite de 68ard. Vous répondez quoi ?
C'est vrai, parce que je suis né en 68, voilà. Donc ça, malheureusement, je ne pourrais pas changer ma carte de naissance. 68 dans l'éducation nationale, il faut se rappeler quand même que la récréation a été rapidement sifflée et que très vite, on en est revenu à des choses assez classiques, assez formelles. Donc il ne faudrait pas non plus laisser croire qu'on a brûlé les livres et puis qu'on s'est mis à danser autour. Quand j'entends qu'aujourd'hui, ce sont les élèves qui commandent, je suis absolument sidéré qu'on me montre une seule école où les élèves ont pris le pouvoir. C'est absolument faux. Je dirais même que trop souvent, c'est l'inverse. On pourrait
en tant que démocrate, que citoyen républicain, on devrait drôlement s'inquiéter de l'incapacité de nos élèves à s'exprimer. C'est marrant, on ne nous interpelle jamais sur la capacité de nos élèves à argumenter, à défendre un point de vue. C'est quand même une capacité fondamentale dans l'espace public. Et puis, comme je vous le dis, il ne faudrait pas non plus laisser croire comme ça que le pouvoir aurait été pris par les élèves. C'est l'inverse qui domine. C'est encore et toujours le professeur qui décide de tout, très souvent, qui malheureusement, dans la conception de son cours, ne prend pas forcément en compte l'élève. Vous savez qu'on a voulu, dans les lois de 89, mettre l'élève au centre du système. Mais à 99%, les professeurs préparent le cours en fonction de la notion, en fonction de ce qu'il y a à apprendre, pas en fonction des élèves. C'est très rare, finalement, qu'un professeur tienne compte des représentations des élèves, des conceptions initiales, de la façon dont les élèves s'imaginent les choses et de l'intérêt qu'ils portent à la notion à étudier. Donc là, franchement, on est dans le fantasme complet. Alors je sais, par contre, que c'est très médiatique, c'est forcément très repris. On est très facilement invité à la télé et dans les journaux ou à la radio quand on prétend que l'école a vendu son âme et qu'aujourd'hui, ce sont des sauvageons qui décident de tout. Voilà, il suffit d'aller faire un petit tour sur le terrain pour être convaincu du contraire.
On forme beaucoup les enfants à l'écrit. Est-ce qu'on les forme assez à l'oral ?
Je ne pense pas. C'est l'arlésienne de l'éducation, l'expression. C'est-à-dire qu'on a vraiment peu de dispositifs qui permettent aux élèves de réellement s'exprimer. Qu'est-ce qui existe le plus généralement ? Le maître pose des questions, puis les élèves y répondent. Alors en plus, avec une situation un peu vicieuse, parce que vous connaissez beaucoup de situations dans la vie où c'est celui qui sait qui pose des questions à celui qui ne sait pas. C'est-à-dire, moi, dans la rue, quand je pose une question à quelqu'un, c'est parce que j'ai besoin de savoir où est la gare, où est la station de métro la plus proche. C'est quand même très rare que ce soit le dépositaire du savoir qui interroge l'ignorant. Donc rapidement, les enfants se rendent compte que c'est faux. Rapidement, les enfants s'aperçoivent que cette situation-là est en vérité une situation d'évaluation. Ils sentent bien qu'il faut donner une réponse pour être bien vu du maître. Donc on ne forme pas assez nos élèves à l'expression. Alors, comment pourrait-on faire ? Parce qu'après tout, il y a des choses à proposer et j'essaye de le faire dans le livre. On peut donner de la place à nos élèves, on peut leur donner la parole, mais ça s'organise aussi la prise de parole. Il ne suffit pas de dire aux enfants « allez-y, exprimez-vous ». Ça s'apprend de parler. Donc on peut par exemple leur permettre de raconter un événement, une anecdote dans leur vie personnelle, voilà, ce qui est déjà un exercice difficile pour un enfant de 8-9 ans, structurer son récit pour ne rien oublier d'essentiel. On peut leur proposer de présenter leur lecture à la classe, voilà, un magazine, un journal, un roman. On peut aussi leur proposer de faire un petit exposé devant tous les autres. Voilà. Donc il y a tout un tas de situations qui permettent aux enfants de s'exprimer devant les autres. Alors le souci après, il est celui de la gestion du temps. Parce qu'un enfant qui parle, c'est 29 qui écoutent. Et avant que le 30e soit passé, eh bien, on aura fini la journée. Donc ça demande aussi un gros travail en amont de gestion du temps, gestion des temps de parole, un gros travail par tableau, par répartition. Mais effectivement, je pense que c'est une question fondamentale. D'ailleurs, c'est marrant parce que la société française, à côté de ça, termine la plupart des diplômes et examens par un grand oral. Très souvent, et même d'ailleurs dans le recrutement des professeurs des écoles, ça se termine par un oral. Quand on est recruté, on subit un entretien d'embauche. Donc vous voyez que bizarrement, je crois aussi qu'il y a une certaine incompétence. On ne sait pas comment on va travailler l'oral. C'est très difficile de travailler l'oral. Est-ce qu'il faut faire répéter les enfants ? Est-ce qu'il faut leur faire répéter des mots pour qu'ils les emploient ? On s'aperçoit que rapidement, on est dépendant du bain langagier dans lequel on est au quotidien. Voilà, en tout cas, au-delà de la question de l'oral, moi je crois qu'il faut apprendre aux gens à s'exprimer, à prendre part au débat, à ne pas faire de complexe, à oser défendre des points de vue. Voilà, ça fait partie de la vie normale du citoyen.
On termine sur les enfants. Finalement, sont-ils heureux ? Est-ce que vous les sentez contents de venir le matin à l'école ?
Une de mes satisfactions, parce que j'ai comme tout enseignant mes propres échecs, mes propres difficultés, des choses sur lesquelles parfois je bute. Mais par contre, une de mes satisfactions, elle réside effectivement dans cet accueil qui est réussi. J'ai énormément d'élèves qui sont ravis de venir à l'école. Alors comment le sait-on ? D'abord parce que ces enfants le disent. Et puis les parents aussi sont bien placés pour dire « Ah ben là, il avait hâte de revenir, c'est la première fois qu'il s'ennuie en vacances ». Donc ça fait énormément plaisir parce que n'oublions pas qu'un élève n'apprend pas grand-chose d'un adulte qu'il déteste. Alors on n'est pas là pour séduire nos élèves, on n'est pas là pour leur plaire. Mais n'empêche que quelque part, on ne peut pas non plus être un enseignant détesté par ses élèves. Donc ceci dit, il suffit aussi de montrer aux enfants qu'on travaille pour eux, qu'on est attentif à ce qu'ils sont. Maintenant, à l'échelle nationale, on a quand même des petits Français qui sont particulièrement stressés, qui sont victimes d'angoisse, et puis on n'échappe pas non plus au drame de la société. On est quand même avec des enfants qui connaissent dans l'enceinte familiale le chômage, la précarité, les difficultés. Vous savez que les Français travaillent de plus en plus loin de chez eux. Il y a des problèmes de garde, et puis on ne peut pas non plus éviter de parler des divorces. Un couple sur deux qui divorce à Paris, un sur trois en province. Ne rêvons pas, ça a des conséquences, évidemment, même si c'est un droit essentiel que celui de se séparer de son conjoint. Ne laissons pas croire que ce serait quelque chose de joyeux et de bénéfique pour les enfants. Ça reste une souffrance énorme. Donc, on a aussi des petits-enfants qui ne sont pas forcément bien dans leur basket, qui ont besoin d'écoute, d'attention, d'épanouissement, de reconnaissance. Hein. N'oublions pas, c'est un des moteurs de la réussite scolaire, l'affectivité, la reconnaissance, l'attention, la bienveillance. Ce sont des mots qu'il faudrait remettre au cœur du débat éducatif. Je ne veux pas qu'on laisse croire aux gens que le bon professeur serait quelqu'un de distant, de froid, de technique, qui, comme ça, ne serait uniquement sur le versant du savoir. On est dans un métier de l'humain, au contact avec des enfants qui sont en pleine formation, en pleine croissance. Et si on n'est pas tout-puissant, il ne faudrait pas l'être, il ne faudrait pas jouer Dr. Frankenstein, même si on n'est pas tout-puissant, on n'est pas non plus impuissant. Malgré les déterminismes sociaux, on a quand même une capacité à faire varier le cours des choses, on a la capacité à changer l'avenir de ces enfants. Et même si on n'en est pas sûr, on est payé pour y croire. On est payé en tout cas pour croire en nos élèves, on est payé pour postuler à l'éducabilité de tous nos élèves. On ne sait jamais si on a tout tenté. Moi-même, avant de finir premier du concours académique de recrutement, je suis d'abord passé par un CAP de dactylo. Et je pense que quand j'étais en CAP de dactylo, il n'y a pas grand monde qui aurait pu penser qu'un jour j'écrirais un livre. Donc on ne sait jamais si on a tout tenté. Et puis à côté de la croyance, il faut aussi se mobiliser pour mettre en œuvre les dispositifs qui permettent la réussite scolaire. Donc, en réfléchissant, en lisant, en analysant, on est capable quand même de faire évoluer ce système malgré tout.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les échelons par lesquels vous êtes passé pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous avez démarré avec un CAP?
J'ai eu un parcours scolaire un petit peu particulier, puisque à l'issue, je suis rentré en seconde à 14 ans, donc c'était plutôt bien parti. Et puis bah, malheureusement, après un redoublement en seconde, ce qui prouve bien d'ailleurs que le redoublement qui est vraiment la tare du système éducatif français. On est le seul pays à faire autant redoubler. Donc le redoublement...
Est-ce qu'on a des quotas par rapport au redoublement ?
À l'école primaire, on ne peut faire... On ne dit plus redoublement, on dit maintien dans le cycle. On ne peut plus maintenir un élève plus d'un an. Parce qu'après, ça ferait de trop grands écarts d'âge à l'entrée au collège. Donc en tout cas, il y a une vigilance. Et puis surtout, on sait que toutes les études qui se succèdent sur cette question attestent qu'il n'y a aucun bénéfice à faire redoubler un élève. Pire, le professeur croit qu'il donne une chance à l'élève en le faisant redoubler, quand en vérité, ça le handicape. C'est-à-dire qu'un élève qui passe, même l'élève le plus nul, quand il passe, il fera toujours mieux que si on l'avait gardé dans son cours. Donc à titre personnel, j'ai subi un redoublement qui m'avait été présenté comme une chance. Et puis finalement, j'ai été sorti du système. On m'a demandé de partir de ce lycée. Et donc, il a fallu que je remonte la pente par le tire-fesse de la formation professionnelle. Donc CAP, BEP, première d'adaptation, baccalauréat, DOG et licence pour finalement suivre 2 ans de formation à l'UFM de Rouen avec donc l'obtention de ce concours. Voilà, donc je dirais qu'à titre personnel aussi, un élève en difficulté, il m'interpelle parce que quelque part, il y a de l'inconscient dans la classe. Il ne faut pas non plus croire qu'on peut s'exonérer comme ça et se mettre à distance des événements. Bien entendu qu'un élève en difficulté m'interpelle, m'attrape comme ça en me disant « vigilance, vigilance ». Quoi, vous savez, hein, on est un système scolaire qui passe à côté de tout un tas de talents. On ne peut pas en France être le meilleur ouvrier de France sans d'abord avoir échoué dans ses études. Hein, nous sommes dans un système très linéaire, très uniformisé, où on prépare tout le monde à Sciences Po ou bien à Normal Sup. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'enfants qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Alors c'est dommage, il faut valoriser d'autres formes de réussite. Il faut proposer autre chose que la formation uniquement basée sur la logique et le langage et la rationalité. Il y a des tas d'élèves qui auraient du talent en électricité, en mécanique, en horticulture, en cuisine, et puis dans les arts, dans le chant, dans l'expression culturelle et artistique. Au système scolaire, d'être capable d'être attentif à tout ça. Hein. À chaque fois qu'on entend parler un artiste, quand vous l'interrogez sur son parcours scolaire, alors là, il y a de la douleur, il y a même parfois de la colère face à ce système scolaire qui était complètement sourd ou aveugle au talent. Voilà, donc à nous aussi, enseignants, d'être capables d'être attentifs à toutes les formes d'intelligence, parce qu'il y en a plusieurs.
Vous êtes devenu enseignant, vous avez écrit un livre, vous êtes donc lauréat 2007 du prix Louis Cross. Pourriez-vous nous en dire un mot ?
Ah oui, bien volontiers, parce que c'est très important pour moi. Donc le comité universitaire d'information pédagogique promeut et encourage les travaux, que ce soit des travaux de chercheurs, mais aussi de praticiens ou d'enseignants. Donc il y a la possibilité à la fois de se présenter au prix Louis Cross pour obtenir donc, ce titre prestigieux qui est décerné par l'Académie des sciences morales et politiques, mais le CUIP, puisqu'on peut retrouver sur internet www.cuip.fr, on peut retrouver donc, les informations du CUIP. ce comité soutient aussi sur le terrain des actions de partenariat ou bien en délivrant une bourse qui permet de mener des actions qui sont toujours dans la logique de démocratisation de l'enseignement. Parce que c'est la grande œuvre de Louis Cros. Vous savez, bien souvent, on administre la pédagogie. Hein, on fait des cases, on fait des horaires, puis tout ça doit être administré avec une sonnette toutes les 55 minutes. Le grand mérite, je crois, de Louis Cros, c'est d'avoir pédagogisé, si, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je l'emploierai volontiers, il a pédagogisé l'administration. Il a mis l'administration au service des apprentissages, aussi bien au travers de son travail pour la recherche pédagogique, mais aussi la documentation pédagogique et la démocratisation de l'enseignement secondaire. Donc pour moi, c'était une reconnaissance officielle, parce que c'était des gens que je ne connaissais pas. Et c'est très, très, très touchant de penser que des gens qui sont parfois, qui ne sont pas de ma formation, qui ne sont même pas de ma génération, eh bien, aient pu comme ça soutenir mon travail, qui était celui, après tout, d'un enseignant isolé, avec quelques soutiens comme celui de Philippe Mérieux. Voilà, c'est une reconnaissance qui me touche beaucoup.
Et une belle récompense. Merci Sylvain Grand-Serge. Merci. Je rappelle que vous publiez École Droit de Réponse chez Hachette et que, évidemment, vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com.